Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Transistor et vous êtes sur D'étoiles plein les yeux, votre émission de cinéma qui fait son retour triomphal après une période d'absence beaucoup trop longue sans cinéma sur nos ondes. Nous sommes bien de retour pour cette fin d'année et pour ce numéro donc notre toile est allemande puisqu'il sera question de la révolution silencieuse de Lars Kraum. Quant aux yeux, ce sont ceux de Sarah et de Colin qui vont vous rendre compte de ce film. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Rémi.
Et on commence donc tout de suite avec ce film, La Révolution Silencieuse, avant quelques petites suggestions de sortie sur lesquelles nous terminerons l'émission. Alors, film que personnellement je n'ai pas vu, honte à moi, du coup je me tourne vers vous pour en connaître un petit résumé.
Ben, La Révolution Silencieuse, c'est l'histoire d'une classe de terminale en Allemagne de l'Est en 1956. Qui décide de faire une minute de silence en hommage à des révolutionnaires hongrois réprimés par les Russes qui occupent la Hongrie à ce moment-là. Sauf que cette minute de silence est très très mal vue, très mal perçue à la fois par l'établissement et par l'État qui finit par s'en mêler et ça devient une affaire extrêmement grave que cette minute de silence qui va tester la solidarité entre cette classe de terminale et leurs convictions politiques.
D'accord, bien. Un beau programme. Et alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont les premières impressions sur ce film?
Ah, bah, du coup, c'est moi qui dois commencer cette fois-ci. J'ai beaucoup aimé ce film. Je trouvais que c'était un thème qui était très intéressant, notamment peut-être aujourd'hui avec des questions politiques qui se soulèvent de plus en plus dans les classes. Et je trouvais qu'il était juste, en fait. Le thème a été traité de manière très juste, sans faire d'affabulation, sans extravagance aucune.
Oui, c'est un très beau film, très fort au niveau émotionnel et par rapport au thème. Il y a plein de choses qui s'entremêlent et je trouve que le film rend bien cette époque post-Seconde Guerre mondiale en Allemagne, juste avant le mur qui va couper Berlin. Et c'est pas un seul thème, en fait, qu'on a dans ce film.
Oui,
c'est vraiment un cliché d'une époque, mais à travers cette classe et l'engagement naissant politique de ces jeunes.
Oui, et je trouvais que c'était bien de montrer des jeunes aussi en action, et pas seulement des adultes, parce que, enfin, je veux dire, ils ont quand même eu des idées, ces jeunes-là, ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'engageaient, et c'était touchant en même temps de les voir comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, c'est un film vraiment touchant. C'est-à-dire, il y a des profils de personnages assez différents qui sont tous réunis dans cette même classe, mais qui ont des parcours familiaux, des parcours politiques extrêmement différents et qui se retrouvent embarqués ensemble dans cette histoire, en fait.
Et d'ailleurs, un truc qui me faisait... Enfin, tu parlais des parcours familiaux, enfin des parcours pédagogiques ou familiaux qui sont différents. Quelque chose qui me faisait bondir, c'était... on était dans une classe, l'établissement c'était censé être un établissement donc pour les élèves, c'est une école, et pourtant la pression que recevaient des enfants, enfin des terminales, la pression politique, la pression familiale, c'était énorme, et c'était des choses que l'on inflige aux adultes, et je me suis dit, mais en fait on ne prend pas du tout soin de nos étudiants ou de nos élèves.
Oui, en fait, on peut dire que c'est une époque un peu charnière et eux, c'est la nouvelle génération, on va dire, post-Seconde Guerre mondiale. Donc, parmi ces jeunes élèves de terminale, il y en a pour qui, s'ils ont leur bac, ce sont les premiers de leur famille à avoir leur bac. Et donc, il y a une responsabilité énorme du point de vue filial, en fait, qui s'impose. Et en même temps, une responsabilité énorme du point de vue... politique et de l'histoire familiale, parce qu'il y a quelque chose qui hante tout le film, c'est forcément le nazisme et qu'est-ce qu'il a fait, toi, ton père, pendant la guerre. Moi, je suis le fils d'un héros, toi, t'es le fils d'un traître. Qu'est-ce qui... voilà, il y a des rivalités comme ça, familiales, qui sont larvées dans cette classe et dans les relations qui s'établissent entre les jeunes.
Oui, et quelque chose d'assez horrible, c'est qu'en fait, on découvre que derrière les apparences, derrière les apparentes fonctions des parents, en fait, il y a encore autre chose, qu'il y a des secrets qui sont bien plus sombres que ce que l'on imaginait. Enfin, je pense notamment à Eric, mais aussi à ce fils du directeur, ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'était l'un des personnages principaux. Il y a vraiment des histoires très très sombres, des histoires de Gestapo aussi, de trahison, de fausses accusations. Enfin, on se rend compte à quel point effectivement le passé nazi hante encore cette classe qui essaie malgré tout de rester solidaire jusqu'au bout. Et je pense que ça fonctionne plutôt bien, avec quelques dégâts, mais...
Avec le film réussit à créer une espèce d'ambiance qui serait celle d'un huis clos ou dans cette classe.
C'est pas tout à fait l'ambiance d'un huis clos, parce qu'on a à la fois cette ambiance de huis clos dans la classe... avec la présence d'un truc qui est cette ministre de l'éducation qui vient essayer de résoudre l'affaire en montant les élèves les uns contre les autres, en créant justement des divergences entre eux. Mais en même temps, on a le côté à la maison, où là, chaque élève individuellement se retrouve face à ses parents qui lui mettent cette pression énorme pour dénoncer les autres ou pour se dénoncer, parce que l'important pour eux, c'est qu'ils aient leur bac. Et c'est vraiment... ce bac, ça devient un but pour lequel on serait capable de tout faire.
Oui, oui, exactement. Et au sujet de ce bac, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, les parents ne vivent pas bien ce système-là. Ne vivent pas bien dans cet état imposé par les soviétiques. Et pourtant, ils veulent quand même que leurs enfants continuent à régénérer tout le temps cet état en se pliant finalement à ce que demande le gouvernement à travers la ministre de l'Éducation. Et c'est assez impressionnant. Mais il faut quand même nuancer, parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est un film qui est très grave. Bon, c'est un film grave, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de moments qui sont assez drôles d'un peu d'échapper à l'air libre. Je pense notamment lorsqu'ils vont se réunir à chaque fois pour écouter la radio chez cet oncle homosexuel, qui est très très drôle d'ailleurs comme monsieur.
Oui, parce que tout part de là, en fait. Ils entendent cette histoire de révolution hongroise via la radio de l'Ouest, qui bien sûr est interdite. Et c'est ça qui les fait chuter, finalement, ce qu'ils disent qu'ils l'ont entendu dans les journaux de l'Est, mais ça n'a jamais été publié par l'Est, bien entendu. Et oui, même s'il y a des moments vraiment bouleversants, vraiment, y a une scène notamment qui m'a fait monter les larmes. Je pleure pas facilement, mais alors là, vraiment, c'était extrêmement fort comme scène. Et pourtant, c'est quelque chose de léger. C'est vraiment ce sont des jeunes qui veulent aller au bout de leurs études, qui veulent vivre complètement la chance qu'ils ont de faire des études que leurs parents n'ont pas forcément eues.
Et ça donne vraiment de l'espoir, je trouve. Parce que déjà, c'est très beau ce qui se passe dans cette classe. C'est vraiment très très beau. Ils arrivent plus ou moins tous à rester ensemble. Et ensuite, finalement, ils s'en sortent. Oui. Ils trouvent des solutions. Alors qu'ils sont jeunes, alors que la plupart sont quand même assez démunis, ils trouvent des solutions face à l'État soviétique tentaculaire.
Et là où le film est assez beau, c'est que justement, il y a ce parcours collectif qui se dessine, qu'on n'imaginait pas forcément tout à la base. Et en général, je dirais que le film fonctionne comme ça. Au début, j'ai pu avoir l'impression de certains clichés. Je me suis dit, bon, bah, ce personnage-là, j'ai compris. Ou je pensais vraiment que ça fonctionnerait de la manière dont je m'y attendais. Et le film gagne en finesse au fur et à mesure qu'il avance. C'est très beau.
Oui, oui, oui. On voit de plus en plus la complexité de la situation de certains, notamment de Théo, je trouve. Pour moi, c'est vraiment l'un des gros héros de ce film. Alors qu'en plus, il ne se revendique même pas en tant que tel. puisque ce n'est pas lui le leader en soi. Et pourtant, mine de rien, c'est quand même lui, malgré tout, qui se révèle comme ça. Et je pense que c'est dû aussi à sa situation très très complexe, où il doit penser à ses études, il doit penser à sa famille, il doit penser à ses petits frères. C'est très mignon d'ailleurs, l'amour qu'il porte à ses petits frères. Et il doit penser aussi à la politique.
Alors on le comprend, donc il y a un message à la fois politique fort, mais c'est peut-être plus un tableau politique qui met à profit l'émotion que crée cette histoire. Cette émotion, est-ce qu'elle passe aussi, alors forcément par une direction d'acteur qui doit être intéressante, si dans la mesure où c'est essentiellement des jeunes, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal là-dedans, et il y a peut-être une espèce d'acteur collectif qui se met en place. Est-ce que formellement, il y a aussi un travail qui rend compte aussi de toute cette charge politique émotionnelle?
Au niveau de l'esthétique, je n'ai pas été particulièrement frappée. Enfin, je trouve que c'est resté juste, mais vraiment, je trouve que c'est le mot qui correspond le mieux à ce film, juste. Il n'y a pas eu d'effet novateur ou quelque chose comme ça, mais pour moi, la caméra était toujours assez claire, nette. Les plans étaient toujours très corrects et souvent, ils étaient à hauteur d'homme, il me semble.
Oui, c'est ça, on a l'impression d'être avec eux, mais c'est pas une impression d'être avec eux, il n'y a pas d'effet « nous sommes dans la classe, nous sommes dans la foule » ou de choses comme ça. Effectivement, c'est pas un film à effet. On a l'impression d'une caméra posée dans un coin et qui nous délivre très simplement cette histoire.
Donc un film caractérisé par la justesse et que vous recommandez, j'imagine.
Très chaleureusement.
Ah oui, oui.
Ça s'appelle donc La Révolution silencieuse et c'est signé Lars Kraum. Ça passe encore cette semaine, par exemple, chez nos amis des cinémas Lumière. Allez, on ne se quitte pas sans quelques petites suggestions de sorties au cinéma pour cette semaine. Et puisque ça fait un petit moment qu'on ne vous en a pas fait, je reviens sur un film sorti il y a quelques temps, mais alors que je n'ai pas vu personnellement, mais que je vous conseille malgré tout fortement d'aller voir. Ça s'appelle The Rider, c'est signé Chloé Zhao. Ça a obtenu des grands prix au festival de Deauville. Pardon. La réalisatrice avait déjà été remarquée par son film Les chansons que mes frères m'ont apprises l'an dernier, film assez magnifique d'ailleurs, et elle retourne dans ce grand Middle West américain avec un jeune cow-boy, Brady, étoile montante du rodéo, qui apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui seront désormais interdites. De retour chez lui, il doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus se donner à l'équitation. Et dans ses efforts pour reprendre en main son destin, il se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. Toujours les mêmes questionnements à l'œuvre dans les films de cette jeune réalisatrice américaine qu'on suit de très très près. Et le film s'appelle donc The Rider, vous pourrez le voir aux Lumières Fourmis toute la semaine. Au chapitre des sorties, évidemment pas possible de manquer Everybody Knows d'Asghar Farhadi, qui était projeté en ouverture à Cannes et qui est immédiatement sorti en salle avec un casting étonnant pour le cinéaste iranien, Ricardo Darín, Penélope Cruz et Javier Bardem dans ce film latino-espagnol. Et qu'est-ce qui s'y passe dans ce film? Eh bien, à l'occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au cœur d'un vignoble espagnol. Mais des événements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. Là encore, malgré la délocalisation de son cinéma, on retrouve des thèmes chers au réalisateur. Et ce film, vous pourrez le voir dans à peu près tous les cinémas d'art et essai toute la semaine et pendant encore un moment. Et bien sûr, on vous conseille d'aller le voir. Généralement, c'est jamais tout à fait raté quand c'est Farhadi qui signe. Toujours dans les sorties cannoises, puisque c'est d'actualité, Plaire, aimer et courir vite, le nouveau Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamp et Denis Podalydès. sort cette semaine. Et puis on suivra bien sûr toutes les autres sorties cannoises qui ne tarderont pas à arriver. Et puis paraît-il même qu'il y a des films très très bien qui ne passent pas par Cannes. On ne les oubliera pas non plus. Et si maintenant on se replonge un petit peu dans le passé avec d'abord la rétrospective Billy Wilder qui continue à s'égrener petit à petit au cinéma opéra. Cette semaine ce sera Le Poison et Embrasse-moi idiot qui seront au programme, deux films dans la veine de la comédie de Billy Wilder au cinéma opéra. Donc. Et puis bien sûr dans le temple du cinéma de répertoire qu'est l'Institut Lumière, on ouvre la rétrospective Rainer Werner Fassbinder, une rétrospective en 14 films et une série télé grâce à l'inestimable Maison Carlotta. C'est depuis le 4 mai à l'Institut Lumière et une soirée Fassbinder et l'Allemagne aura lieu ce jeudi à 20h, suivie de la projection de tous les autres s'appelle Ali. Ça sera donc à l'Institut Lumière ce jeudi 20h. Les films de la rétrospective sont projetés pendant tout le mois de mai et début juin. Et cette semaine, ce sera entre autres Éphibriste, projeté vendredi et samedi dans la soirée, l'adaptation du célèbre roman de Théodore Fontane. Et en poursuivant du côté des adaptations de romans justement, l'autre grande rétrospective de l'Institut en ce moment est autour de Claude Autant-Lara, et ce week-end, vendredi et dimanche, on projettera Le Diable au corps, adaptation donc par Autant-Lara du célèbre roman. Ça sera toujours à l'Institut Lumière. Et puis je termine avec un dernier film à l'Institut, L'Héritage de Mauro Bolognini, le grand cinéaste italien, quoique peut-être un peu moins connu que ses contemporains. Donc son film L'Héritage, projeté ce mercredi et puis également dimanche et lundi à l'Institut. Je vous invite à vous renseigner sur tout ça sur le site de l'Institut Lumière, qui a toujours une programmation riche et passionnante. Et c'est sur ces quelques mots que l'on termine ce numéro de D'étoiles plein les yeux, enfin ressuscité. Une émission qui était donc présentée par Rémi Cerda avec Sarah Andria et Colline Lafontaine. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour toujours plus de cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.